Sí, o salario mínimo.
Teniendo en cuenta el costo de vida y las
Compte
variaciones
tenu du fait que le coût de la vie et sa fluctuation est un des critères à prendre en compte pour déterminer le niveau du salaire minimum conformément à la recommandation 135 de l'OIT. A-t-on réalisé ou actualisé ces dernières années l'enquête nationale sur les revenus des ménages afin de déterminer si le salaire minimum actuel est effectivement adapté au coût de la vie? Quant à la promotion du dialogue social tripartite, quelles sont les mesures que vous avez prises, si vous en avez pris, pour abolir la pratique de révision d'accords bipartites du salaire minimum qui est pratiquée pour le secteur de la maquila, production manufacturière, et qui favorise cependant les travailleurs d'autres branche. Nous voulons savoir quelles sont les mesures que vous avez envisagées pour réduire le différentiel salarial résultant du décret du salaire minimum différencié pour les salariés de l'industrie manufacturière et textile pour l'exportation. Concernant la santé et la sécurité au travail, nous savons que la loi sur la santé au travail est en débat. Nous voulons savoir quelles sont les avancées en vue de son adoption? Avez-vous prévu d'adopter la Convention 187 de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail, la Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs? En ce qui concerne les conditions de travail des plongeurs Miskitos, une question générale porte sur les résultats de la mission de contact direct de l'OIT en 2022 sur l'application de la Convention 169. Nous aimerions que vous puissiez partager avec le comité la question de savoir dans quelle mesure on a avancé avec les recommandations de cette mission de contact direct, notamment pour ce qui concerne la situation du peuple miskito. En outre, on nous a indiqué dans vos réponses que diverses mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie des pêcheurs plongeurs. En particulier la certification d'autres inspecteurs du travail dans le cadre du cours sur la sécurité maritime. Pouvez-vous nous indiquer combien d'inspections ont été effectuées, avec quelle fréquence, aussi bien au port qu'en haute mer? Quelles ont été les conclusions de ces inspections et quelles mesures ont été prises pour donner suite à ces conclusions? Quel type de sanctions ont été adoptées dans le secteur de la pêche sous-marine? Et quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour renforcer les capacités de la commission interinstitutionnelle pour répondre à la problématique des pêcheurs-plongeurs? Je voudrais également aborder la situation des pêcheurs artisanaux. Nous avons appris qu'ils travaillent dans des conditions précaires, non seulement pour ce qui a trait à leur mode de subsistance et conditions de vie, mais également pour ce qui a trait à l'exercice de leurs droits économiques, socioculturels, ce qui est aggravé par les effets du changement climatique et par les opérations des grandes entreprises de pêche de crevettes. Je voudrais savoir comment vous abordez la situation des pêcheurs artisanaux et leurs familles. Offrez-vous des alternatives d'emploi, une aide au logement, un financement, un soutien technique, un accès aux services de base, entre autres? Quelles sont les mesures précises prises pour protéger la sécurité des pêcheurs artisanaux lorsqu'ils sont agressés, y compris physiquement, alors qu'ils cherchent à subvenir aux besoins de leur famille? Concernant la situation des travailleurs de l'agriculture, de la maquila et du service domestique, quelles sont les réformes qui ont été faites pour garantir que les travailleurs de ces secteurs exercent effectivement tous les droits des travailleurs? Quelles sont les mesures prises pour renforcer l'inspection du travail et pour l'adapter afin qu'elle réponde aux besoins et aux caractéristiques propres de ces secteurs? Quels sont les mécanismes de plainte disponibles pour ces travailleurs? Quels sont les progrès qui ont été faits pour assurer l'accès à la sécurité sociale universelle pour les travailleurs du secteur de la maquila, incluant par exemple des dispensaires, infirmeries pour le personnel, un accès aux services de santé intégral, hospitalisation, clinique, laboratoire y compris. Quelles sont les mesures prises pour renforcer le contrôle des formes d'organisation du travail en évitant d'imposer des objectifs élevés obligatoires avec des journées illégales dans les maquilas? Pour passer aux droits syndicaux, nous aimerions que vous puissiez nous informer des avancées dans les enquêtes que vous mentionnez au paragraphe 96 de votre réponse à la liste des questions. Vous indiquez qu'il y a eu 13 travailleurs en 2023 de l'industrie des maquiladoras qui ont été victimes de violences contre les syndicalistes. Nous voudrions savoir quelles sont les mesures prises pour que les lois relatives à la syndicalisation des employés sont appliquées et respectées. Quant au droit à la sécurité sociale, au numéro 98 de vos réponses, vous indiquez que la loi cadre du système de protection sociale a été abrogée en 2022, étant donné qu'elle a été déclarée anticonstitutionnelle. Et nous voudrons savoir quel a été l'impact réel de vide juridique laissé par cette abrogation pour ce qui concerne les droits des travailleurs ainsi que les institutions liées à cela. Quel est le cadre juridique que vous avez adopté ou vous envisagez d'adopter pour disposer d'un système de protection sociale qui permette justement de reconquérir ces droits qu'avaient déjà acquis les travailleurs? Quelles mesures envisagez-vous pour assurer l'accès à la sécurité sociale pour les travailleuses des maquiladoras et quelles sont les données sur le pourcentage actuel de la population bénéficiant de la sécurité sociale ventilée par sexe, âge et situation socio-économique? Par manque de temps, je conclus là mes questions et j'attends avec intérêt vos réponses. Merci.